France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Une femme, un homme, une table, plusieurs caméras, combien de possibilités? Bon, alors, c'est vrai que parfois l'esprit s'emballe, surtout en cette fin de campagne. Non, ce soir, le face-à-face Marine Le Pen-Emmanuel Macron ne virera pas façon collection Harlequin. Non, les deux finalistes de la présidentielle ne termineront pas sur la même couverture de roman de gare titré « Piégé par le désir ». Les informés de France Info, spécial débat de second tour que vous pourrez suivre d'ailleurs en direct sur notre antenne dès 21h. Coulisses, enjeux, programme, boissons fraîches. Et ce soir, pour ce tour de chauffe, les informés de France Info reçoivent Loubna Méliane. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France du Parti Socialiste. Alexandre Loubet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présentez des jeunes avec Nicolas Dupont-Aignan, le communicant Emery Doniger. Bonsoir.
Bonsoir.
Et également Yaël Gauze, bonsoir, chef bonsoir. Du service politique de France Info. Les informés de France Info, spécial débat du second tour, c'est parti. Alors vous l'avez remarqué, depuis 24 heures, nous sommes en boucle sur ce débat de second tour. Bien sûr, il y a les programmes de chaque candidat, mais on peut vous dire que la table séparant les deux challengers mesure 2,50 m, que la température du studio est de 19 degrés, que 14 caméras donc filmeront les échanges, atterrissage prévu vers 23h30. Nous sommes même devenus des Scorsese en puissance, puisque nous nous sommes passionnés aujourd'hui pour les plans de coupe. Et oui, prévu pour la première fois dans ce genre de confrontation, Macron, Le Pen, duel d'idées et de personnes qui se cherchent en fait depuis de nombreuses semaines. Passage en revue des piques entre les deux finalistes.
Madame Le Pen, vous serez gentille, je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque.
Monsieur Macron, vous avez un talent
vous êtes
fou,
trop
vous arrivez
avance.
À parler 7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous
et
n'avez rien dit.
C'est le vide absolu sidéral.
Le projet de Monsieur Macron, c'est un projet... fratricide.
Et donc la France, ça n'est pas ce visage haineux et rétréci que porte Madame Le Pen. Je ne la laisserai pas porter ce visage de la France. Je ne la laisserai pas banaliser ce qu'est le parti du Front National qui est un parti xénophobe.
Je n'ai pas d'admiration pour quelqu'un qui veut déconstruire la France.
Elle a une part d'humanité. Et donc, elle a une détermination.
Voilà, ils se le cherchent donc depuis quelques semaines. Donc Emmanuel Macron, Marine Le Pen, juste au départ, Yael Gauze. Bon, on a beaucoup parlé de débats décisifs. Est-ce que c'est vraiment décisif ces débats de second tour?
Les débats de second tour, en général, ça fait pas bouger la courbe des sondages. Il y a quelques punchlines, comme on dit en anglais, quelques phrases fortes qui restent, qui marquent pour l'histoire. C'est le monopole du cœur en 74, c'est l'homme du passif en 80, Mitterrand, Giscard. Là, ce qui est différent quand même dans ce cru 2017, c'est que tout est inédit. C'est pas la gauche et la droite qui sont face à face. Le FN est à la table du débat. En 2002, Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Et c'est inédit aussi parce que, eh bien là, on a... deux projets qui vont s'affronter, deux Frances, une France fracturée, avec cette question, est-ce que ça peut faire bouger les indécis? C'est ça qui est nouveau dans cet entre-deux-tours. L'importance des votes blancs, 900 000 au premier tour, on pourrait être à 3-4 millions dimanche prochain, selon les instituts. Donc il y a cette incertitude sur les indécis, donc ça peut faire bouger à ce niveau-là. Et Emmanuel Macron doit ce soir montrer qu'il n'est pas juste un homme de barrage au Front National, mais qu'on peut aussi adhérer à son projet, c'est tout l'enjeu pour lui. Donc oui, il y a une différence cette année, c'est les indécis et c'est le resserrement entre les deux candidats.
Alors ça, on va en parler dans un instant, mais justement Emery Doniger, pour vous, ces débats de second tour, c'est vrai qu'ils sont très regardés, on se souvient, comme l'a dit Yaël, de phrases qui restent, mais c'est finalement quelques secondes dans les 2h20 de débat.
En fait, le débat de second tour, c'est la rencontre des gens. C'est-à-dire qu'on voit enfin, seul à seul, on a une relation avec les deux candidats. On les regarde, on les écoute, on peut commencer à comprendre comment est-ce qu'ils pourront être en tant que président. Et il y a toute cette dimension impalpable qu'on appelle la communication non-verbale, parce qu'on a pendant 2h30 deux personnes et on les voit bouger, réagir, tiquer, on voit leurs attitudes, leurs tocs, leurs tics. Et ça, c'est très intéressant. Donc un débat, c'est ce débat-là ce soir, il va y avoir 50% de communication non-verbale qui vont être totalement analysées par les Français, une trentaine de pourcents qui vont être sur le fond, mais pas trop, parce que finalement, leur programme, on les connaît.
D'où l'intérêt des plans de coupe, en fait.
Non, mais d'où l'intérêt des plans de coupe
tout à l'heure, mais c'est ça, on va pouvoir...
Les derniers pourcents, ça va être effectivement les punchlines où on va essayer de trouver la petite phrase, faire mouche et faire rire dans les maisons.
Loubna Méliane, c'est vrai que le débat, alors là c'est un débat plus classique, mais c'est vrai que cette année on en a eu beaucoup, beaucoup de débats. Là c'est le dernier.
Alors c'est pas un débat classique, on se retrouve
sur la forme. On a eu beaucoup, beaucoup de débats cette année. Pour vous, ça a été important justement dans cette campagne d'avoir autant de débats, primaire de droite, primaire de gauche, des débats à 5, à 11, à 2. Est-ce que ça a été important?
alors important, c'est bien que la démocratie puisse exister et qu'il y ait des débats, mais ça a noyé un peu les lecteurs. Moi, je me souviens du débat à 11. C'était difficile de tout comprendre, de tout entendre. Je veux dire, c'est quoi? C'est une dizaine de minutes par candidat. Donc, c'est vrai que c'était pas évident. En effet, le débat d'entre-deux-tours, qui a toujours été l'unique débat qu'il y avait dans le cadre des élections présidentielles, est un débat où il y a une rencontre. Et malheureusement, ça va être difficile qu'il puisse y avoir une rencontre quand on a une candidate qui passe son temps à mentir. Je pense bien évidemment à Marine Le Pen. C'est difficile de pouvoir savoir véritablement ce qu'elle pense, puisque de toute façon, elle a toujours la bonne phrase qui permet à chacun d'entre eux, en tout cas aux téléspectateurs qui l'écoutent, d'avoir le sentiment d'y trouver sa réponse. Je vais donner un exemple tout à fait concret, l'euro et la monnaie, où elle a été capable quand même d'expliquer ces derniers jours que on changera la monnaie localement, nationalement, mais que les entreprises pourront continuer à utiliser l'euro.
Alors, Lubna Mélian, ça...
Un débat, quand on a quelqu'un qui ne dit pas la vérité, excusez-moi, ce n'est pas possible.
Alexandre Loubet, justement, sur l'euro, vous, justement, vous êtes jeune avec Nicolas Dupont-Aignan, donc voilà, on en parle beaucoup depuis cet accord.
Mais j'ai été surpris d'entendre ce que je viens d'entendre, justement. Est-ce que vous parliez vraiment de Madame Le Pen ou bien d'Emmanuel Macron, votre candidat?
Non, tout à fait de Marine Le Pen.
Parce que, pardonnez-moi, mais Marine Le Pen a un programme clair, a eu un programme clair pendant le premier tour de l'élection présidentielle. Nicolas Dupont-Aignan en avait un également. Ils ont réalisé un programme commun pour le second tour. Et je peux vous assurer que ce programme commun, qui est constitué de près de 150 propositions différentes, existe véritablement. Moi, ce que je constate, c'est que le programme de Monsieur Macron, c'est 17 pages. 17 pages, non pas de mesures, mais d'objectifs, exclusivement. Comment est-ce que vous voulez gouverner un pays seulement avec des objectifs et sans mesures concrètes? Alors, je suis désolé, mais en l'occurrence, la personne qui ment, c'est Monsieur Macron, ce n'est pas Madame Le Pen. J'ajoute que, concernant la tenue du débat ce soir, c'est une très bonne chose. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons été privés, Nicolas Dupont-Aignan, en l'occurrence, à plusieurs reprises de débats, notamment le troisième débat
c'est
à quelques jours.
C'est pas lui qui débat, monsieur.
Notamment... Laissez-moi parler, Alexandre, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. Notamment le débat à quelques jours du premier tour du scrutin, comme vous devez le savoir. Emmanuel Macron a fui ce débat pour la simple et bonne raison qu'il porte la responsabilité du bilan médiocre de M. Hollande et qu'il est prêt à prolonger ce quinquennat.
C'était pas le seul, rappelons-le, il y avait également Jean-Luc Mélenchon,
surtout, qui a déclenché les
choses, il y a François Fillon aussi à un moment,
la gauche s'est complètement échappée.
En attendant, les électeurs, c'est Emmanuel Macron qu'ils ont placé devant et pas Marine Le Pen.
Alors, on va en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
14 caméras, une température de la pièce à 19 degrés et des plans de coupe autorisés. C'est à partir de 21h le grand débat télévisé de l'entre-deux-tours à suivre sur France Info. Ce débat est une première pour les deux candidats invisibles toute cette journée pour mieux le préparer. Une manifestation de soutien à Emmanuel Macron à Amiens cet après-midi, la ville natale du candidat En Marche. Au moins 160 personnes ont défilé, notamment des élus locaux, socialistes ou centristes. Manifestation conclue par la Marseillaise. Une voiture entre dans la foule près de Boston et fait 3 morts. Le bilan est provisoire selon la police américaine. 9 piétons ont également été transportés à l'hôpital. Rien ne permet de dire à ce stade qu'il s'agisse d'un acte intentionnel ou terroriste. À Bastia, 10 hommes restent ce soir gardés à vue après une nouvelle vague d'interpellations. La poursuite de l'enquête sur les incidents autour du match Bastia-OL du 16 avril. Il devrait être présenté au parquet demain. Une personne a été remise en liberté dans l'après-midi. En Guyane, le port de Cayenne bloqué en soutien aux grévistes de l'hôpital et surtout d'EDF. Les techniciens sont toujours en grève et réclament de meilleures conditions de travail. Cette nuit, la nuit dernière, 40% des habitations étaient privées de courant. Et puis Monaco-Juventus-Turin, la deuxième demi-finale allée à 20h45 de la Ligue des Champions. Actuellement en Ligue Europa, l'Ajax Amsterdam domine les footballeurs de l'Olympique Lyonnais 3-1 en deuxième mi-temps, une autre demi-finale allée.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de ce débat que vous pourrez suivre en direct à partir de 21h. Yael Gauche, justement, là on vient de le voir dans cet échange. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la première fois que le Front National débat au second tour. En 2002, Jacques Chirac avait refusé de débattre face à Jean-Marie Le Pen. Pourquoi Emmanuel Macron a accepté?
Parce qu'aujourd'hui, le Front National est installé dans le paysage. Parti légal, certains disent pas forcément républicain, mais c'est un parti qui a remporté les élections européennes, qui est arrivé en tête des élections européennes, c'est un parti qui s'est implanté aux élections régionales. Et puis Emmanuel Macron a accepté le débat à 5 puis à 11 avec Marine Le Pen. Vous vous souvenez de cette image? Ils se sont tous serrés la main, les candidats, à la fin du débat à 5. À partir du moment où Marine Le Pen est dans ce cercle, des candidats à l'élection présidentielle, elle ne peut que l'affronter, et Emmanuel Macron ne peut que l'accepter dans le débat d'entre-deux-tours. C'est logique.
Ouais. Lumna Méliane, c'est quoi? C'est un changement d'époque? Est-ce que vous le voyez aussi comme ça, finalement, aujourd'hui?
Moi, j'ai une culture antiraciste profondément ancrée en moi. J'ai milité pendant de longues années au sein d'associations antiracistes. J'étais très surprise de voir le peu de mobilisation au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Je me souviens, moi, en 2002, j'avais une vingtaine d'années, on était tous à la place de la Bastille, on a passé la semaine entière, les 15 jours, pardon, entre les deux tours, à mobiliser la jeunesse, à manifester contre le Front National. Donc, oui, je suis inquiète, je suis triste de voir mes camarades antiracistes ne pas se mobiliser comme il le faudrait. Après, en effet, il n'avait pas d'autre choix que de débattre avec elle. En effet, je pense que pour pouvoir combattre le Front National, il faut y aller sur les idées. Et donc, en effet, il fallait débattre avec elle. Mais en même temps, je me dis, c'est de la responsabilité collective. Mmh. Et je suis triste de voir qu'un certain nombre de nos représentants et nos dirigeants politiques n'ont pas fait le choix aussi clair d'appeler à voter Emmanuel Macron.
Emery de Higé, pour vous, ce changement d'époque qu'on a pu voir, Emmanuel Macron, finalement, aujourd'hui, accepté, en effet, comme Yael Gauss, de débattre deux fois face à Marine Le Pen, il y avait d'autres candidats. Il ne pouvait pas faire comme Jacques Chirac en 2002, refuser ce débat.
Non, je suis assez d'accord avec Yael Gauss. Yael, pardon. Le sujet, il était j'ai déjà débattu avec elle, pourquoi est-ce que je ne redébattrai pas avec elle? Donc ça, c'était acté. Bien joué, d'ailleurs, de la part des chaînes de télévision qui ont monté ce débat-là et inclus Marine Le Pen. Mais d'un autre côté, difficile de ne pas l'inclure. Elle représente quand même, à l'époque où ils ont fait le premier débat, elle était en tête de tous les sondages. Elle était annoncée à 30%, peut-être même 33%, voire 35% au premier tour. Donc, compliqué de l'exclure. Sinon, on excluait, de fait, 30 à 35% des gens qui étaient capables de regarder cette télévision-là. Donc, il fallait la prendre en compte. Et puis, la prendre en compte, c'était également la montrer telle qu'elle est. Donc, au fur et à mesure des débats, il y avait une posture pour les opposants de dire « voilà comment elle est ». Et elle, de son côté, il y avait une posture pour dire « voilà comme je suis ».
Alexandre Loubet.
Oui, je suis assez surpris d'entendre ce qu'on voit là. Effectivement, Marine Le Pen a gagné, finaliste de cette campagne présidentielle avec Monsieur Macron. Il m'apparaît tout à fait logique et normal qu'ils puissent débattre ensemble. Je ne vois pas au nom de quoi elle n'aurait pas pu. Il faut, je pense, prendre conscience que il n'est absolument plus possible d'assimiler aujourd'hui Marine Le Pen avec ce qu'a été son père. Vous l'avez bien vu. Non, pardonnez-moi,
mais
monsieur.
Vous l'auriez dit un an ou deux ans en arrière, à Debout la France, vous l'auriez dit.
Un an ou deux ans en arrière. Oui, je l'aurais dit. Mais vous savez, on ne s'est jamais caché. Moi, ce que je tiens à préciser...
Un petit peu comme aujourd'hui...
Non, absolument pas.
Il y a beaucoup de phrases qui sont sorties, Nicolas Dupont-Aignan, disant que c'était irréalisable.
Jusqu'en janvier dernier, d'ailleurs.
Alexandre Loubet. Le soir du premier tour, quand nous avons vu les deux finalistes, nous avons pris conscience de la gravité de la situation en voyant M. Macron, qui justement avait terminé vainqueur pour le moment de ce premier tour. Nous avons pris conscience que nous allions continuer avec le quinquennat de M. Hollande, que nous allions aller vers davantage de démission de l'État, d'immigration de masse, de déconstruction de l'État, que nous allions aller vers une déconstruction de notre système social, que vous le vouliez ou non. Donc,
Alexandre Loubet, face à la réalité de la situation, excusez-moi, vous l'avez compris en 24
heures. Contrairement aux Républicains qui sont allés se soumettre 10 minutes après l'annonce des résultats derrière M. Macron, pour aller tout simplement à la soupe en ayant complètement oublié les idées qu'ils avaient défendues, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis près de 5 jours à négocier avec Mme Le Pen une alliance, un programme commun. Nicolas Dupont-Aignan...
C'est compliqué de parler avec un militant.
Pardonnez-moi, Nicolas Dupont-Aignan... Non,
si vous allez-y, attendez, Alexandre Loubet, allez-y, parce qu'on...
Nicolas Dupont-Aignan sera la garantie d'un véritable pluralisme démocratique au sein du gouvernement
de Mme Le Pen. Vous
savez ce qu'on va faire?
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à en parler dans un instant, parce que tout de suite, on va aller à la Plaine Saint-Denis, là où va se dérouler le débat, rejoint de Jamel Mazzi de France Télévisions. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Et oui, effectivement, alors on nous a demandé de quitter le plateau à l'instant, c'est la raison pour laquelle on se retrouve ici devant l'entrée de ce studio 107 de la Plaine Saint-Denis. Au moment où je vous parle, eh bien, c'est Marine Le Pen qui visite actuellement, qui fait un petit tour sur ce plateau chauffé à 19 degrés, vous l'avez dit tout à l'heure, en compagnie de Florian Philippot, David Rachline, Nicolas Bell, l'état-major du FN qui accompagne donc ce soir la candidate Front National. Et c'est une première aussi dans l'histoire, un candidat FN donc qui sera autour de cette table. Marine Le Pen qui est arrivée aux alentours de 19h38, plutôt sereine, eh bien, elle nous a confié que l'attente de ce débat, qu'il soit utile pour les Français, que les Français auront le choix entre la continuité de François Hollande ou alors du vrai changement, le sien en tout cas. Voilà, c'est ce qu'elle nous a affirmé tout à l'heure. Emmanuel Macron, qui lui est arrivé également avec son staff aux alentours de 20h, qui, eh bien, à son tour, ira visiter ce plateau, donc aux alentours de 20h20, pendant 10 minutes. Donc, ce grand débat qui va commencer à partir de 21h, un plateau vraiment réglé au cordeau, hein, il faut le dire, une table carrée, 2,50 m vont les séparer ce soir, une douzaine de thèmes qui seront aussi abordés par les deux journalistes, les deux chefs des services politiques respectifs de TF1 et France 2, à savoir Nathalie Saint-Cric et Christophe Jacques-Libizine. Donc, je vous le disais, Marine Le Pen qui visite en ce moment même où je vous parle le plateau de la Plaine Saint-Denis, le studio 107. Donc.
Merci Jérémy Mazzi, on vous retrouve de toute façon pendant les informés de France Info pour prendre la température qui est donc, on le sait bien, de 19 degrés puisque ça sera ça déjà.
Ça c'est au début.
Vous savez, après, vous savez, j'ai l'impression d'annoncer l'abstention, vous savez, comme le dimanche soir, vous savez, du vote, on annonce ça pendant des heures et des heures. Juste une chose, on va parler dans un instant des programmes. Yael, les thèmes également ont été établis à l'avance. Comment ça s'est passé ça, les thèmes, c'est des candidats, c'est qui est-ce qui est
établi? Ah bah, c'est une négociation, même la durée de l'émission. Les deux équipes rencontrent évidemment TF1, France 2 et discutent entre elles, hein, évidemment, pour décider, définir la liste des thèmes, définir la durée précise. Ce matin, j'avais l'information comme quoi ce serait 2h, c'est monté à 2h20, donc il y a une négociation qui s'est poursuivie très tard, y compris pour les plans de coupe, puisqu'on l'a appris très, très, très tardivement également qu'il y aurait des plans de coupe autorisés.
Voilà, les plans de coupe, ça permettra de voir les réactions finalement de l'interlocuteur à chaque fois. Et donc, c'est vrai qu'on peut peut-être surprendre, comme vous le disiez tout à l'heure,
un soupir,
on peut voir un soupir, voilà, un haussement d'épaule. Et on a même appris à un moment par le réalisateur donc, du débat qui avait opposé Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal, que Ségolène Royal se remettait du gloss, tout simplement, pendant que Nicolas Sarkozy parlait pour perturber un peu son interlocuteur. Dans un instant, on parle des points justement qui vont opposer les deux candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'info à 20h20, c'est Stéphane Milhomme.
Le débat d'entre-deux-tours peut jouer un plus grand rôle qu'à l'accoutumée. C'est l'analyse de Jack Lang sur France Info avant le duel Le Pen-Macron des 21h. L'ancien ministre socialiste avait conseillé François Mitterrand en 1981. Ce soir, c'est une première. Il y aura donc des plans de coupe autorisés. Un débat que vous suivrez bien sûr sur notre antenne également. François Baroin prévient les élus républicains qui se rapprochent du FN ou de Macron seront exclus du mouvement avant les législatives. C'est François Baroin qui conduira la campagne pour les élections de juin. Il appelle à resserrer les rangs après la défaite de François Fillon. Donald Trump confiant depuis la Maison Blanche, la paix entre Israéliens et Palestiniens, nous y arriverons. Une déclaration du président américain au moment où il accueille son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Lui évoque l'espoir d'un traité de paix historique sous la présidence Trump. Au Mali, un mort, 9 casques bleus blessés cet après-midi dans une attaque contre l'ONU à Tombouctou. 6 obus ont été lancés. Le pays lutte toujours contre le terrorisme. Avant cette attaque, la Côte d'Ivoire annonçait l'envoi de 150 de ses soldats pour travailler avec les troupes de l'ONU au Mali. Et puis deux matchs de football ce soir. Actuellement en Ligue Europa, demi-finale aller. L'Ajax Amsterdam domine l'Olympique Lyonnais 4-1. Une autre demi-finale aller dans 25 minutes. La Ligue des Champions avec la confrontation entre Monaco et Juventus Turin.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Loumna Méliane, conseillère régionale d'Île-de-France socialiste, Alexandre Loubet, président des Jeunes, avec Nicolas Dupont-Aignan, le communicant Emery Doigé, Yael Gauche, chef du service politique de France Info. On parle bien sûr du débat que vous pourrez suivre à partir de 21h sur France Info. Souvenez-vous, il y a un an, ils étaient nombreux à soupirer à l'idée de ce second tour. Oh, vous verrez, dans la dernière ligne droite, Nicolas Sarkozy doublera Le Pen et François Hollande nous sortira une tactique dont il a le secret, pas très excitant comme revanche. Puis il y a eu, oh, un second tour Juppé-Le Pen, pas très neuf non plus. C'est sûr, c'est inévitable. Et nous voilà donc avec Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Quelque chose nous a échappé, mais quoi? On verra plus tard. En tout cas, voilà un débat avec deux candidats que tout oppose sur l'économie, modèle social, les questions de société, la politique étrangère. Rares sont les liens que l'on peut faire entre la candidate du FN et celui d'En Marche. Mais ces derniers jours, le thème d'affrontement des deux candidats s'est précisé. On va l'entendre avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
Il est le candidat de la mondialisation sauvage. Il est le candidat des grandes puissances financières. Il est, si vous voulez, le mondialiste. Je suis, moi, la patriote.
Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Le président de tout le peuple de France. Le président des patriotes face à la menace des nationalistes.
Voilà, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Lumna Mélian, pardon.
C'est pas grave.
Alors, excusez-moi. Est-ce qu'on est justement là-dedans? Comme le dit Marine Le Pen, ça veut dire les pros et anti-mondialisation, les patriotes contre nationalistes. Est-ce que c'est ça, finalement, l'enjeu aussi de ce soir d'aller...
Non, l'enjeu pour nous, ce soir, en tout cas pour les Républicains au sens large, hein, pas le parti politique, ceux qui croient aux valeurs de la République, je crois que l'enjeu, c'est de faire barrage à l'extrême droite. En fait, je ne me pose pas, moi, de questions
sur...
pas de questions, moi, sur le programme de Macron. Et par ailleurs, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas de difficulté à voter Macron, contrairement à en 2002, quand il a fallu voter Chirac. Et au contraire, je trouve que Emmanuel Macron est un coup de bol pour les électeurs de gauche. Parce que c'est quand même plus facile d'aller voter pour lui qu'en 2002. Moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le modèle républicain pour lequel je me suis toujours battue puisse continuer à exister tel que celui auquel je crois. C'est-à-dire le fait qu'on puisse continuer à permettre aux couples homosexuels de pouvoir continuer à s'unir. Le fait qu'on puisse permettre aux femmes de pouvoir à la fois mener une activité professionnelle et bénéficier de systèmes de garde. Par exemple, Marine Le Pen ne parle pas du tout des crèches. Je veux qu'on puisse garder nos libertés individuelles. Je pense que sous Marine Le Pen, la démocratie, ce ne sera pas la même que celle qu'on vit aujourd'hui.
Yael Gauz, ce thème-là, il s'est imposé finalement avec...
Et dans l'entre-deux-tours, on a eu deux stratégies parallèles du candidat Macron et de la candidate Le Pen. Rediabolisation du FN du côté d'Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'on a eu toute cette tournée des lieux de mémoire, en passant par Oradour-sur-Glane, le village martyr, jusqu'à l'hommage à Brahim Bouharam au pont du Carrousel, où des gerbes de fleurs ont été jetées. Hein, ce Marocain qui avait été jeté dans la Seine par des skinheads le 1er mai 1995. Et à l'inverse, du côté de Marine Le Pen, c'est démobilisation des électorats de gauche vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui serait le vampire de la finance, l'homme de la finance, le banquier au nid. Donc on a eu ça pendant cet entre-deux-tours. Et on a eu deux séquences, deux semaines très différentes. C'est pour ça que ce soir, ça peut être décisif. Une première semaine où Emmanuel Macron a donné l'impression de patiner, sérieusement. Il y a eu la séquence Whirlpool. Ensuite, on a eu l'accord inédit. Le FN n'est plus seul. Il y a Debout la France, une alliance pour les législatives et pour la présidentielle. Et puis, cette deuxième semaine qui est très différente, où Marine Le Pen enchaîne les ambiguïtés, le plagiat peut-être du discours de François Fillon, on en reparlera peut-être, et des ambiguïtés, on va reparler, j'espère,
bien sûr,
sur l'euro, la retraite aujourd'hui.
Ouais. Alors justement, Alexandre Loubet, pour vous, justement, même question, est-ce que finalement la question posée par Emmanuel Macron comme Marine Le Pen, c'est ça pour vous? J'imagine que pour Debout la France, c'est ça aussi qui vous a intéressé avec Marine Le Pen, c'est-à-dire sur la mondialisation, sur la finance, ces choses-là.
Effectivement, quand j'entends M. Macron se qualifier de patriote, je trouve ça absolument abject. Est-ce que vous imaginez honnêtement le général de Gaulle avoir vendu des fleurons nationaux avec des milliers de brevets et près de 40 000 emplois qui sont passés français, qui sont passés sous étendard étranger à travers les ventes d'Alstom ou encore de Technip quand M. Macron était à Bercy? Est-ce que vous l'imaginez? Non, ça n'est pas du patriotisme.
Vous avez entendu le petit-fils du général de Gaulle dire qu'il en avait marre, qu'on récupère la mémoire du général sans arrêt.
Je vais vous dire très franchement, je crois qu'aujourd'hui, n'importe qui peut essayer de s'accaparer la mémoire du gaullisme. En tout cas, je n'imagine honnêtement pas le général de Gaulle voter en faveur d'Emmanuel Macron, encore une fois l'homme qui sera garant de la soumission de notre pays.
Oui. Merci pour la question. Est-ce qu'il lui a demandé?
Je vais vous demander une seule chose, c'est de ne pas entrer dans les caricatures. Vous savez, monsieur Doligé, je suis allé sur votre compte Twitter. Et qu'est-ce que j'ai pu voir sur votre compte Twitter? Excusez-moi. Mais à travers cette image-là, j'aimerais qu'on la montre.
Alors là, on décrit. Alors on voit Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan en Adolf Hitler.
Assimilé à Adolf Hitler, c'était le 30 avril.
Oui.
Pourquoi, monsieur? Vous savez que vous êtes en train d'insulter près de la moitié de la population française qui est prête à voter en faveur de cette fameuse alliance Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen. Moi, ce que je souhaiterais, c'est, je ne partage pas vos idées, mais quoi qu'il en soit, je ferai tout pour que vous puissiez les exprimer. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en aucun cas, vous n'ayez à traîner dans la boue des gens pour leurs convictions. Parce que je vais vous dire une chose.
Mais c'est ce que vous faites depuis tout à l'heure quand vous
expliquez
que... C'est exactement ce que vous faites. L'opportunité de vous répondre,
madame,
s'il vous plaît.
Oui, mais s'il vous plaît.
Alors attendez, Alexandre Loubet, qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va déjà laisser Emery Doligé.
Vous avez dénoncé que la démocratie serait soi-disant en danger. Excusez-moi, mais ce n'est pas madame Le Pen qui souhaite déréguler... je finis juste ma phrase. Qui souhaite déréguler le marché du travail par ordonnance.
Alexandre Loubet, on aura le temps d'en parler. j'aurais juste à avoir la réponse d'Amaury Doligé.
Je vais en faire deux. Je vais d'abord pas répondre tout de suite. Je vais reprendre le point sur Whirlpool.
Oui.
En fait, effectivement, il y a eu les deux premiers jours de la semaine dernière
où flottement réel.
Il y a eu un vrai flottement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et ensuite, une fois que ce flottement est passé, il y a eu l'effet Whirlpool. Il y a eu deux temps à l'effet Whirlpool. D'abord, la rencontre avec les représentants des syndicats. Et ça, c'était important pour Macron de compenser d'aller vers les gens auprès desquels il avait dit qu'il allait. Et la seconde, c'est d'aller sur place, pas pour faire des selfies, mais pour parler avec les gens. Ça, c'est le premier point.
Elle lui a mis un coup de fouet, en fait. Hein,
Elle lui a mis un coup de fouet. Ensuite, sur la méthode qui est employée par mon voisin, oui. C'est une méthode très connue par Trump qu'on appelle l'effet alternatif. C'est-à-dire qu'on utilise des choses qui ne permettent pas de répondre véritablement sur le fond pour essayer de détourner l'attention. Alors, sur le fond.
Excusez-moi, monsieur, je détourne l'attention. Je vous détourne l'attention parce qu'on a de la publicité. Vous voyez ce que c'est, hein, voilà, le général de Gaulle va peut-être l'envoyer. En tout cas, voilà, les informés de France Info à suivre, en tout cas, avec les soutiens également des candidats. On continue à parler des programmes. C'est l'avant-débat dans les informés de France Info.
Message incroyable de Bouygues Télécom.
Incroyable, vraiment ?
Oui. En ce moment, Bouygues Télécom te rembourse 150 euros sur tous les smartphones.
Non. Tous ? Même sur le nouveau Samsung Galaxy S8 ?
Oui.
Mais c'est merveilleux, ça !
Merveilleux, comme le Samsung Galaxy S8.
En ce moment, chez Bouygues Télécom, pour tout achat d'un smartphone, dont le nouveau Samsung Galaxy S8, avec un forfait sensation 20Go et plus et d'une souscription à une box, profitez de 150 euros remboursés. Offre soumise à condition, conservant votre numéro, engagement 24 mois.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, torréfié à l'ancienne, pour préserver le goût unique de nos cafés. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore perturbé dans l'Est demain, mieux vers l'océan. Dans le Sud-Ouest, on aura de belles éclaircies dès le matin. Ce sera du gris pour les régions du Nord-Ouest jusqu'au bassin parisien, parfois de la brume. L'après-midi, ça s'arrangera. Retour d'éclaircies, un bémol vers la Normandie et l'Île-de-France, plus de nuages, quelques averses. Ailleurs, ce sera très nuageux, humide, avec des averses parfois orageuses entre le nord de la Seine, le Nord-Est, le Centre, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes. Des averses plus espacées vers le Sud-Est. Il fera frais le matin, 2 à 10 degrés. L'après-midi, bonne nouvelle, ça montera doucement, 13 degrés à Cherbourg, 15 à Lille, 17 degrés à Paris, Strasbourg, Lyon, 18 pour Nantes et pour Nice, 21 à Toulouse et 23 à Bordeaux.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Les deux finalistes de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, face à face ce soir. C'est dans moins d'une demi-heure maintenant, à 4 jours du second tour dimanche. Pour en découdre en direct, débat télévisé inédit à suivre sur France Info en intégralité. Il devrait durer 2h30. Au terme du tirage au sort tout à l'heure, c'est la candidate Front National qui ouvrira tout à l'heure les hostilités. Du football avec cette demi-finale allée de l'Europa League à Amsterdam. Amsterdam pour Lyon contre l'Ajax. L'Ajax qui a encore alourdi le score, mais Lyon a marqué, Christophe Vincent.
Oui, en fait, c'est l'inverse. C'est Lyon qui était mené 3-0. Lyon qui avait réduit le score par Mathieu Valbuena à 3-1. Donc, c'était à la 66e minute. Et là, on se disait que le coup aurait peut-être été jouable. Ça relançait en tout cas les Lyonnais en vue du match retour jeudi prochain au Parcours. Là, c'est Tolisso qui est finalement contré dans la surface de l'Ajax. On joue dans les dernières secondes. On est dans le temps additionnel de ces 4 minutes d'arrêt de jeu. Et donc, je le disais, Valbuena qui réduit le score, mais à la 71e minute, le coup de massue de l'Ajax par un centre tendu de Ziyech, une reprise de Traoré, doublé de Traoré, qui condamne peut-être l'OL à l'élimination. On verra dans 8 jours au Parc OL. Ce sera très très difficile pour les Lyonnais de revenir sur cette équipe de l'Ajax qui a pris une grosse option pour la finale.
Christophe Vincent, direct d'Amsterdam avec beaucoup d'ambiance dans le stade. Merci. Deuxième demi-finale aller cette fois de la Ligue des Champions. Monaco, 146 buts marqués en 57 rencontres. Affronte ce soir la Juventus Turin. Meilleure défense d'Europe. Le match à partir de 20h45. La fin de négociation avec les pilotes chez Air France. Après des semaines de discussions chaotiques, la direction a transmis au syndicat un projet d'accord sur le plan stratégique de la compagnie. Il comprend notamment notamment la création d'une compagnie low cost au sein d'Air France. Après le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au mois de février, Mahmoud Abbas a été reçu à son tour à la Maison Blanche par Donald Trump aujourd'hui, le président de l'autorité palestinienne qui espère, dit-il, que quelque chose de fantastique va se produire entre Palestiniens et Israéliens. 31 personnes décédées au Venezuela lors des manifestations et des violences qui secouent le pays depuis début avril, c'est ce qu'annonce le parquet, alors que l'opposition au président Maduro défile à nouveau dans les rues de Caracas ce soir. Et puis la ville de Paris va mettre aux enchères dans 10 jours des centaines de cadenas d'amour qu'accrochent les touristes sur les ponts de la capitale. Les plusieurs dizaines de milliers d'euros tirés de la vente seront reversés à des organisations caritatives.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. On fait un tour de chauffe avant le débat que vous pourrez suivre donc à la fin de cette émission, bien sûr sur France Info et autour de la table des informés. Ce soir, nous trouvons Loumna Méliane, conseillère régionale d'Île-de-France socialiste, Alexandre Loubet, président des Jeunes avec Nicolas Dupont-Aignan, le communicant Emery Doliger et Yaël Gauche, chef du service politique de France Info. Justement, Yaël, on l'a vu, voilà, il y a des petites tensions autour de certains sujets. Est-ce que, également, Marine Le Pen, ce soir, va... On a dit souvent qu'Emmanuel Macron avait peut-être plus de faiblesse sur les sujets régaliens, on appelle par exemple la défense, la sécurité. C'est là-dessus aussi qu'elle va chercher, qu'elle va aller chercher Emmanuel Macron.
Elle va d'abord devoir répondre aux ambiguïtés sur l'euro. Évidemment, parce que depuis, il y a eu un grand tournant, on pourra sans doute en parler, un grand tournant au soir du premier tour, ça a dû faire débat très très fort d'ailleurs en interne, on n'a pas eu les échos encore de comment ça s'est passé à l'intérieur du QG de Marine Le Pen, mais ce revirement sur l'euro, c'est-à-dire maintenant une négociation avant un éventuel Frexit et une sortie de l'euro avec deux monnaies, une monnaie commune équivalent écu pour les entreprises et une monnaie en francs nouveau, pas l'ancien franc pour le porte-monnaie de tous les Français,
citoyens, ouais.
C'est quelque chose qu'il va falloir expliquer longuement avec les conséquences que ça peut avoir sur la dette française, sur les futurs investissements que voudrait faire Marine Le Pen si elle était au pouvoir. Ça, c'est à mon avis, un des grands moments de la soirée qui va être intéressant à suivre. Et la retraite, c'est tout nouveau, la retraite à 60 ans promise par Marine Le Pen, qui arriverait en fin de quinquennat et non plus dans les mesures immédiates promises. Donc sur l'économie, là, je pense qu'on va assister à un débat peut-être technique, mais en tout cas, où Emmanuel Macron va sans doute tenter d'affaiblir son adversaire.
Alexandre Loubet, justement, sur cette histoire d'euros, on a vu, justement, depuis cet accord avec Nicolas Dupont-Aignan, il y a une différence chez Marine Le Pen.
Effectivement, le programme commun a clarifié une position commune sur l'euro qui fait que, désormais, la transition vers une monnaie commune n'est plus un préalable à d'autres politiques économiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a des urgences à régler avant. Ces urgences, c'est quoi ? C'est supprimer la directive travailleurs détachés qui fait qu'on a 500 000 travailleurs étrangers qui viennent sur notre sol travailler en payant les cotisations sociales dans leur pays d'origine. C'est appliquer un protectionnisme, je dirais un patriotisme économique qui est nécessaire pour justement protéger l'emploi en France à travers notamment des incitations fiscales pour les entreprises qui investissent en France. C'est réserver une grande partie de la commande publique aux entreprises françaises pour pouvoir justement, encore une fois, favoriser l'emploi en France. Véritablement, ce sont des politiques économiques à mener pour,
Et une préférence nationale également, pas ?
Alors, il n'y a pas de préférence nationale, on parle de priorité en l'occurrence, ce qui n'est absolument pas pareil.
Pourquoi ?
Et la priorité, en quoi ça consiste ? Et parce qu'on ne fait pas de hiérarchie dans les personnes.
Vous
on
taxez
fait pas...
les emplois d'actifs étrangers, 6% d'actifs en France.
Alors, nous avons écarté effectivement la préférence étrangère qui n'était pas d'ailleurs la préférence nationale qui n'était pas d'ailleurs la préférence étrangère. La préférence étrangère, c'est plutôt le programme d'Emmanuel Macron. La préférence nationale qui n'était pas dans le projet de Madame Le Pen, c'est désormais une priorité nationale qui sera inscrite dans la Constitution.
Vous savez très bien que c'est une histoire de langage. Vous savez très bien que c'est un vocabulaire différent.
Oui, mais ça nécessite d'être clarifié.
Et surtout,
c'est ce qu'on a demandé.
Je voudrais juste préciser aux auditeurs. En fait, vous savez que ça existe déjà. En fait, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, vous payez davantage si vous employez un étranger que donc elle existe déjà.
Très bien, très bien. Mais ce que nous voulons, c'est pénaliser.
Davantage
encore le fait d'employer. Pourquoi on fait ça ? Ce n'est pas par idéologie, c'est tout simplement par bon sens. Quand on a dans un pays près de 6 millions de chômeurs, je crois que le bon sens nous appelle à, je dirais, favoriser effectivement les Français qui vivent.
Et quand vous manquez le médecin, comment vous faites? Vous taxez le médecin étranger qui vient filer un coup de main en France? Alors,
concernant par exemple le domaine médical, sachez que nous voulons augmenter le numerus clausus parce que à aujourd'hui, et je le connais bien, je suis étudiant. Mm. Il y a beaucoup d'étudiants qui étudient en médecine.
Pardon, alors, Alexandre, vous respectez
un peu ce que. Allez-y,
attendez, parce que je voudrais qu'on.
Et qui sont contraints d'aller dans d'autres pays européens pour pouvoir, je dirais, faire des études en médecine.
Alors,
pardonnez-moi, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux.
Alors, Lumna Médiane.
Je rentrerai pas dans le débat programmatique. Je vous l'ai dit, c'est pas la question. Mais ce qui est intéressant quand on vous entend, c'est qu'à chaque fois, et c'est ça le qui nous oppose. Quand je dis nous, je parle de l'extrême droite et des partis républicains.
Je ne suis pas d'extrême droite, madame.
Excusez-moi. Mmh. C'est ça qui nous oppose. C'est-à-dire que vous opposez toujours les Français les uns aux autres. Excusez-moi, attendez, je vous ai écouté. Est-ce que j'ai le droit de pouvoir m'exprimer?
Allez-y,
je vous remercie.
Allez-y,
vous opposez les Français les uns aux autres. Je suis d'origine étrangère, j'ai obtenu la nationalité française grâce au droit du sol, je suis française de plein droit. Comment vous distinguez les bons étrangers des mauvais étrangers? Comment vous distinguez celles et ceux qui habitent en France depuis 20 ans, qui payent leurs impôts, qui ont peut-être pas fait le choix d'acquérir la nationalité française ou... Ils ont eu des difficultés parce que c'est un vrai parcours du combattant que d'obtenir la naturalisation. Je le sais parce que je suis beaucoup de dossiers et j'essaie d'accompagner les gens là-dedans. Mais comment vous faites la distinction entre les uns et les autres? En fait, moi, je suis désolée. Le programme d'Emmanuel Macron, en tout cas, ce qu'il essaye de défendre, c'est pas d'opposer les Français, c'est d'unir les Français et de permettre de faire en sorte que la France marche sur ses deux jambes.
Le programme d'Emmanuel Macron,
est-ce qu'il y a un retour
du droit du sol
ou pas? Vous enlevez le droit du sol?
Effectivement, il y a suspension du droit du sol.
Voilà. Tout à fait.
J'ai une question. J'ai une question.
Si je peux me permettre, quand on est dans un pays avec près de 6 millions de chômeurs. Quand on est dans un pays avec près de 6 millions de chômeurs, qu'on n'a plus les capacités aujourd'hui, avec la hausse du communautarisme.
Non, il est étudiant.
Madame, excusez-moi,
chômeuse. Et vous savez quoi, j'ai beaucoup de France.
Mais vous savez, je suis encore étudiant, madame. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je sais la précarité dans laquelle vivent les étudiants. Et ça, c'est à cause principalement de près de 30 ans de politique qui ont été menées par l'ensemble des soutiens d'Emmanuel Macron. Parce que vous savez, il y a l'ensemble.
Alexandre Loubet, s'il vous plaît. Déjà, en plus, quand on parle de 30 ans de politique, Nicolas Dupont-Aignan était avant chez les RPR, donc finalement, il y a 30 ans au RPR.
Emery
Doïgé. On va juste entendre Emery Doïgé.
Juste une question, réponse après les informations. J'aimerais que notre ami de chez Nicolas Dupont-Aignan réponde à la question de savoir comment est-ce qu'on peut être une droite humaniste et soutenir le fait que le délai de carence de 2 ans pour les étrangers bénéficiant de la sécurité sociale existe.
Alors, vous allez y répondre dans un instant. Voilà, excusez-moi, Alexandre Loubet. Dans un instant, vous allez pouvoir y répondre. L'info à 20h40, c'est Stéphane Milhomme.
Le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle sera un débat très particulier selon François Hollande. C'est le premier débat entre un candidat qui représente l'ensemble de la République et une candidate d'extrême droite. Déclaration du président sortant cet après-midi lors d'une visite dans le 18e arrondissement de Paris. Ce débat retransmis dès 21h sur France Info. L'État a été condamné pour faute lourde dans l'affaire Agnès Marin. L'adolescente avait été violée et assassinée en 2011 au Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire par un de ses camarades. Le jeune scolarisé lui aussi au lycée Cévenol avait été remis en liberté après une condamnation dans une affaire de viol. Une nouvelle fusillade dans une université du Texas ce soir en banlieue de Dallas. La police parle de 2 morts dont le tireur. Les étudiants ont été invités à se calfeutrer dans les salles de cours en attendant que l'alerte soit levée. Des milliers de manifestants actuellement à Caracas. La police du Venezuela lance des gaz lacrymogènes. 31 personnes sont décédées depuis un mois lors de manifestations et de violences dans ce pays. L'opposition au président Nicolas Maduro reste très mobilisée. 2 matchs de football ce soir. D'abord en Ligue Europa, demi-finale aller. L'Ajax Amsterdam a surclassé l'Olympique Lyonnais 4-1. Autre demi-finale dans 5 minutes. La Ligue des Champions avec la confrontation entre Monaco et la Juventus Turin.
France Info.
20h, 21h. Les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info spécial débat ce soir, second tour. Alors on va juste faire une petite parenthèse, on va sortir de cette tension politique palpable et on va aller se détendre à Amsterdam, parce que c'est vrai que ça détend toujours à Amsterdam, puisque le match Ajax-Amsterdam-Olympique-Lyonnais que vous suivez depuis le coup d'envoi sur France Info vient de se terminer. Christophe Vincent, les Lyonnais, une petite douche froide, on peut dire ça comme ça?
Oui, battu largement à plate couture, 4-1, deux images fortes ici à l'Arena d'Amsterdam.
De longues minutes après le coup de sifflet final, Anthony Lopez, le gardien lyonnais, longtemps accroupi, prostré devant son but. Et puis juste après, les joueurs de l'Ajax qui sont allés saluer les ultras et qui en ce moment effectuent littéralement un tour d'honneur. C'est rarissime à l'issue d'un match aller. C'est dire la confiance de ces Hollandais en vue du match retour dans 8 jours au Parc OL. 4-1, un score sans appel. Ils ont surclassé, ils ont asphyxié cette équipe lyonnaise. Trop tendre face à cette bande de jeunes gamins, des jeunes pousses, moyenne d'âge 22 ans. Ils sont increvables, ces joueurs de l'Ajax. En tout cas, ils ont donné une véritable leçon à l'OL et ils ont pris une sérieuse option pour la qualification à la finale de cette Europa League. Ce sera le 24 mai prochain à Stockholm, en Suède. Donc, net avantage et victoire sans appel, 4-1 de l'Ajax ici face à l'Olympique Lyonnais.
Merci Christophe Vincent pour nous avoir fait vivre. Oui,
là il y a un match retour, mais ce soir il n'y a pas de match retour.
Non, il y a juste un match aller. Peut-être législatif. Alors justement, Alexandre Loubet, rapidement, s'il vous plaît, juste avant qu'on retourne justement à Plaine-Saint-Denis, est-ce que vous pouvez répondre justement à ce que disait Emery Doliger, la question
sur la question du délai de carence, effectivement, c'est justement pour mettre fin à toute ambiguïté sur l'immigration qui vient en France, pour la simple et bonne raison que il apparaît tout à fait normal qu'on ne puisse pas bénéficier d'allocations sans, je dirais, avoir fourni d'efforts en échange. Ça, c'est une notion, je comprends bien que la gauche ne peut pas comprendre.
L'humanisme nécessite de l'effort en échange.
Il n'y a absolument pas question d'humanisme pour la simple et bonne raison.
Vous dites que vous êtes une droite humaniste, c'est vos mots, c'est pas les miens.
Effectivement, mais en l'occurrence, je ne vois pas ce que ça va faire. Pour la simple et bonne raison.
Vous êtes droite humaniste ou vous n'êtes pas droite humaniste?
Pour la simple et bonne raison.
Mais sérieux, vous êtes droite humaniste ou pas?
Pour la simple et bonne raison que la couverture.
Non, ma question est simple, c'est oui.
Mais bien évidemment que oui, monsieur.
Ah, d'accord. Pour la simple et bonne
raison. S'il vous plaît. Pour la simple et bonne raison que la couverture en matière de maladie, de santé, est maintenue. En l'occurrence, le délai de carence concerne notamment les allocations pour, par exemple, le logement. Voilà. C'est la simple et bonne raison que quand on arrive dans un pays, il faut mettre fin, il faut casser l'appel d'air social.
Je vous parle des gens malades.
Que nous...
Et la sécurité sociale, c'est pour les gens malades.
C'est pour les gens malades. Effectivement. Et c'est ce que je viens de vous dire.
Non, là, vous parlez de
le
logement.
Le délai de carence, non.
L'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État.
Le délai de... Non, ça n'a rien à voir, pardonnez-moi.
Mais c'est
ça,
le délai...
Non, absolument pas. Là, vous confondez tout. Là, nous parlons d'une immigration légale.
Je viens de vous poser la question sur la sécurité sociale, monsieur.
Non, mais arrêtez de tout confondre, s'il vous plaît. Laissez-moi m'exprimer. L'aide médicale d'État.
Vous voyez, c'est la démonstration parfaite d'un fonds alternatif.
S'il vous plaît, l'aide médicale d'État concerne.
Tout à l'heure, maintenant, c'est fait.
L'aide médicale d'État concerne. Arrêtez avec vos caricatures. L'aide médicale d'État concerne les clandestins. En l'occurrence, le délai de carence concerne l'immigration légale, cher monsieur. Et alors, ça n'a rien à voir.
Alexandre Loubet.
Et je tiens à préciser, s'il vous plaît, parce que là, on est en train de traîner dans la boue, encore une fois, par la pensée unique, s'il vous plaît.
Attendez,
non, mais pardonnez-moi, mais attendez, il voulait que je ressorte l'image, honnêtement.
Ah non, mais, mais c'est pas le problème, non, pensée unique ici, s'il vous plaît.
Pardonnez-moi, mais quand quelqu'un compare Nicolas Dupont-Aignan à Adolf Hitler, pardonnez-moi, ça me choque.
Très bien.
S'il vous plaît, laissez-moi terminer.
Alexandre Loubet, vous parlez beaucoup. Attendez, on va entendre les autres. S'il vous plaît, Alexandre Loubet.
Tout simplement à charger ses droits pour bénéficier.
Alexandre Loubet, on va juste écouter aussi les autres. Luna Méliane, justement, quand vous entendez là ce que vient de dire Alexandre Loubet
sur l'immigration,
quand vous entendez la présence.
C'est vous qui l'interprétez comme ça, madame.
C'est exactement ce que vous voulez dire. En tout cas, ce qu'il faut savoir, parce que je pense que vous ne connaissez pas un peu comment ça se passe en termes de démarches administratives, sachez que vous ne pouvez pas obtenir d'allocation ou d'aide si vous n'êtes pas en situation régulière, y compris sur l'allocation de logement.
C'est exactement ce que je voulais dire.
On peut pas vous louer un appartement, un bailleur ne peut pas vous louer un appartement si vous n'avez pas un titre de séjour en règle, et vous ne pouvez pas bénéficier de n'importe quelle aide si vous n'avez pas un titre de séjour en règle. Deuxièmement, je suis très fière que la France accueille, est un pays, une terre d'accueil. Ça fait partie de son histoire, ça fait partie de son patrimoine, et grâce à cet accueil généreux et bienveillant, ma génération, ou des jeunes filles ou des jeunes hommes comme moi, ont pu embrasser la France. Et je crois que c'est dangereux, le discours que vous tenez. Et c'est ça la différence entre l'extrême droite et Emmanuel Macron. On peut lui reprocher tout ce que vous voulez. C'est le candidat de la banque, c'est le candidat du capitalisme. Pourquoi pas à la rigueur? Et vous savez quoi? Je m'en fous. Mais ce que je sais, c'est que c'est le candidat qui veut faire en sorte que la France continue à être unie dans une période où les attaques de l'extérieur sont les plus violents, qu'on est tous traumatisés par les attaques, par les attentats que subissent notre pays. Je pense qu'il faut qu'on soit capable de pouvoir s'unir et faire en sorte que les uns et les autres puissent trouver leur place légitimement dans leur pays, parce que ils sont français, qu'on le veuille ou non, ils sont français. Ouais. Et les étrangers, certains, beaucoup, essayent d'acquérir la nationalité française et veulent devenir français.
Une question.
Donc, et je terminerai juste par une chose. L'extrême droite, ce n'est pas un parti comme les autres. Vraiment. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que en quelques jours, on a détruit toute l'éducation antiraciste dans ce pays.
Justement, alors une question, Yael Gauz, on le sait, Emmanuel Macron, finalement aujourd'hui, parle beaucoup de République, finalement peut-être beaucoup plus qu'avant. Il a mis du temps, vous l'avez dit, à comprendre presque finalement au second tour quelle était la personne en face. Est-ce que finalement c'est naturel pour Emmanuel Macron ou alors il s'est improvisé?
Je pense qu'il a appris beaucoup dans l'après premier tour, notamment cette soirée. Bon, il y a eu beaucoup de polémiques sur ce dîner à la Rotonde. C'était sans doute très maladroit en termes de communication. D'ailleurs, même François Bayrou a été invité à ce dîner, n'y est pas allé et lui a fait la remarque attention, tu es sous les projecteurs maintenant.
Une chose peut être interprétée. On l'a entendu hier, Emmanuel Macron utilisait un terme très étonnant, c'est l'anti-France. L'anti-France, qui était un terme d'extrême droite des années 30, il a qualifié donc l'extrême droite française, les Front National aujourd'hui, d'anti-français.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, rediaboliser le Front National. Mais attention, cette stratégie est, à mon sens, totalement insuffisante, parce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron souffre de quoi ? D'un vote barrage au Front National, pas d'un vote d'adhésion. Toutes les dernières enquêtes le montrent, l'adhésion est relativement faible sur son projet. Et l'erreur qu'il a sans doute faite au soir du premier tour, c'est de considérer qu'avec 24%, il était celui qui avait renversé la table, cassé les partis traditionnels. Je suis désolé, vous additionnez les 6,5% de Benoît Hamon et les 20 et quelques pourcents de François Fillon, il y a encore 26% de l'électorat français dans cette présidentielle qui a voté PS ou LR. Attention, c'est ça qu'il a raté peut-être au soir du premier tour, c'est de parler à tout le spectre politique.
Dans un instant, on va parler justement de ses soutiens. Alexandre Bay, pour vous, aujourd'hui, est-ce que finalement ce second tour, est-ce qu'il montre aussi finalement la fin, tout simplement, des partis traditionnels
Absolument pas.
Non,
je vous surprends absolument pas. Alors, les partis probablement, mais pas les personnalités, puisqu'elles se sont toutes rangées derrière la même personne, qui fait peut-être peau neuve, mais qui en réalité appliquera toujours les mêmes politiques. Je crois qu'aujourd'hui, il s'agit pas de faire barrage.
Vous parlez du Front National ?
Non, je parle d'Emmanuel Macron, qui a rassemblé la quasi-totalité des premiers ministres et le président de la République actuelle derrière sa candidature. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité, madame, pardonnez-moi, ça n'est pas de faire barrage à une extrême droite fantasmée qui n'existe absolument pas. C'est, en tout cas, qui n'est pas incarné par Madame Le Pen, loin de là. Le véritable enjeu de ce second tour, madame, c'est de mettre fin à l'extrême détresse dans laquelle toutes les politiques que prend M. Macron a conduit les Français. Cette détresse a conduit à un état désastreux.
Quand vous entendez ça, justement, Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite.
Si elle est d'extrême droite, j'ai aucun doute là-dessus. C'est pas ça qui me choque le plus. C'est normal, il est en train de faire sa campagne.
Qu'est-ce qu'il y a d'extrême droite dans son programme aujourd'hui, madame, s'il vous plaît.
Excusez-moi, je voudrais finir mon propos.
Justifiez-le, s'il vous plaît.
Ce qui me surprend le plus, c'est que, et ça fait un moment que c'est dans la discussion, c'est qu'on considère Emmanuel Macron comme un candidat comme les autres. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un candidat comme les autres. Il n'est pas issu d'un parti politique traditionnel. Pour le coup, ils sont similaires les deux. Je veux dire, ils sont hors système. Ce n'est pas un candidat du système, ce n'est pas un candidat qui vient du Parti Socialiste ou des Républicains, c'est un candidat
qui aurait aimé être candidat législatif au Touquet en 2007-2008 et qui s'est fait fermer à qui on a fermé la porte, François Hollande, premier secrétaire.
Qui a été conseiller et ministre de François Hollande.
Il ne faut pas tricher sur le passé des candidats.
Là-dessus, c'est intéressant parce que c'est ça qui me plaît aussi dans son profil, c'est en effet le Parti Socialiste pendant longtemps a fermé la porte. Et je le sais, je fais partie de ce Parti Socialiste. Je milite depuis que j'ai l'âge de 17 ans. J'étais porte-parole d'un mouvement lycéen. J'ai fondé un mouvement qui s'appelle Les Putes Insoumises. Je suis élue que depuis un an.
Alors, on va justement continuer à parler des partis.
En effet, c'est une nouveauté, mais en même temps, je pense qu'on va faire de la politique différemment et c'est ce qu'il apporte.
Et bien, on va parler de ça, justement, dans un instant, figurez-vous. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
À 4 jours du second tour de la présidentielle, le débat va devoir montrer qui est le vrai patriote. Le pronostic sur France Info de Stéphane Rosès, le président de CAP, enseignant à Sciences Po et HEC, note entre Le Pen et Macron un clivage existentiel identitaire. Et là, tout est beaucoup plus ouvert que pour les débats précédents. C'est à suivre dès 21h sur France Info. La paix entre Israéliens et Palestiniens, nous y arriverons. La promesse de Donald Trump ce soir depuis la Maison Blanche. Le président américain accueille Mahmoud Abbas et
Le chef de l'autorité palestinienne évoque l'espoir d'un traité de paix historique sous la présidence Trump. Une visite aux États-Unis quelques semaines après celle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En Guyane, le port de Cayenne bloqué en soutien aux grévistes de l'hôpital et surtout d'EDF. Les techniciens sont toujours en grève et réclament de meilleures conditions de travail. 40% des habitations hier soir étaient privées d'électricité. L'association qui gérait la mosquée de Torcy, officiellement dissoute. Ce lieu de culte de Seine-et-Marne est sous le coup d'une fermeture administrative depuis le 10 avril pour incitation au djihad. Le recours déposé par ses responsables a été rejeté par le tribunal administratif. Et puis la remontada va être difficile pour l'Olympique. Lyonnais, l'Ajax d'Amsterdam a battu le club français 4-1 en match aller de demi-finale de Ligue Europa. Une autre demi-finale vient de commencer, la Ligue des Champions, avec la confrontation entre Monaco et la Juventus Turin.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, le débat c'est dans 8 minutes et on part tout de suite à Plaine-Saint-Denis, hein, rejoindre Jamel Mazzi. Alors, est-ce que l'ambiance est cette fois-ci un peu plus palpable et tendue?
Écoutez, on va peut-être remettre la lumière. Et oui, on est en direct sur France Info. Écoutez, on nous demande de sortir. Et oui, je suis dans le noir, mais pour ceux qui nous entendent à la radio en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on nous demande de quitter le plateau tout de suite puisque les candidats vont arriver d'une minute à l'autre, puisque ce débat de 2h20, l'ultime débat donc avant le second tour, va commencer d'ici quelques minutes. On nous demande de sortir. Nathalie Saint-Cric et Christophe Jacquivizine, les journalistes qui vont donc poser les questions, viennent d'arriver. Ils posent là pour la photo justement. Et on nous demande de sortir à l'instant. Alors c'est un peu beaucoup de monde. Il y a des états-majors des deux chaînes co-organisatrices, il y a TF1 et France 2 qui sont présentes ici. Et donc voilà, on nous demande de quitter le plateau. Et les candidats arrivent maintenant, tout de suite.
Merci beaucoup, Jamel Mazzi. On espère que vous pouvez suivre en tout cas. Hein, voilà, ce débat. Yael Gauz, rapidement, on l'a entendu tout à l'heure, voilà, il y a des soutiens. Nicolas Dupont-Aignan a scellé un accord donc avec Marine Le Pen, c'est le seul. Le reste, beaucoup soutiennent Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Benoît Hamon a publié dans Le Monde « Voter Macron, un acte difficile, mais un choix évident ». Moi, il y a juste une question que je vais vous poser, on est assez étonné quand même de la manière dont Emmanuel Macron traite ses soutiens. C'est-à-dire qu'il est un peu assez violent, c'est-à-dire Manuel Valls. Par exemple, Christophe Castaner, son porte-parole, qui dit à propos de Ségolène Royal, présente à son meeting, « Bon, bah écoutez, c'est un peu comme si Madame Duchemol était là ». Pourquoi il leur parle comme ça?
Parce qu'il est prisonnier de son renouvellement. C'est sa ligne. Il ne peut pas dire amen à tous les soutiens anciens. Ça va à l'encontre du projet qui consiste à renverser la table et à dire on fait table rase des vieux partis, on renouvelle. Donc tous ces anciens qui viennent s'agréger à sa campagne, ce sont clairement des boulets pour lui. Ça lui sera utile après, peut-être, s'il gagne, pour gouverner, pour avoir suffisamment une majorité pour pouvoir gouverner. Mais en attendant, ça contrevient à son discours du renouvellement. Je suis jeune, je casse les codes.
C'est ça, Emery de Higé.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a dit, notamment à l'égard de Mélenchon sur le code du travail, qu'il ne reviendrait pas dessus, parce que sinon, ça serait mentir aux 24% de Français qui lui ont fait confiance au début. Il est dans cette logique-là. Je vais amener des gens nouveaux à la politique. Je vais transformer la politique, alors qu'en face, on est dans une logique où je garde ceux qui sont déjà présents, qui ont plusieurs dizaines d'années de mandat derrière eux déjà, et donc il y a cette espèce de jeu qui va se faire.
Et c'est là où Marine Le Pen a des munitions pour ce soir, clairement, c'est avec qui gouvernerez-vous Monsieur Macron? Ça, c'est une question à laquelle il aura du mal à répondre ce soir. Et pourtant, elle est très intéressante aussi, très importante pour les Français, de voir quelle serait l'image du gouvernement.
D'autant qu'on voit qu'En Marche a investi très peu de candidats pour les législatives, donc on peut très bien se douter que ce sera une sorte de centre de réinsertion, une sorte de recyclage pour les socialistes qui auront rejoint Emmanuel Macron pour ce second tour, je n'en doute pas.
Loubna Meliane, est-ce que vous, finalement, vous l'attendez, ce nom de Premier ministre Emmanuel Macron?
Non,
vous attendez?
Non, j'attends qu'on gagne. J'attends dimanche, d'être rassurée et de me dire qu'on pourra continuer à avancer. Après, sur les soutiens...
Est-ce que vous avez été surpris finalement par la manière dont justement Emmanuel Macron accueille ou non ses soutiens? C'est-à-dire que Manuel Valls se prend vent sur vent quand même, hein, depuis...
Quand Nicolas Sarkozy fait sa vidéo sur YouTube, la réponse c'est « je m'occupe pas des clans ». Ouais. C'est quand même Nicolas Sarkozy, ancien président, qui dit « je voterai Macron ».
En effet, il est dans une position où, en effet, il a expliqué qu'il allait renouveler, mais je pense que c'est pas justifié. Je pense qu'on a besoin de l'expérience des uns et des autres.
L'échec, en l'occurrence.
Oui, là, c'est terminé. Merci. Je pense qu'on peut avoir besoin de l'expérience des uns et des autres. Je suis satisfait de voir qu'un certain nombre de dirigeants et de personnalités qui ont eu des hautes responsabilités soutiennent la candidature d'Emmanuel Macron. Non pas parce qu'ils sont d'accord avec son programme, mais parce qu'ils considèrent que le risque face à l'expérience l'extrême droite est trop importante pour pas ne prendre parole. Je préfère des soutiens qui l'annoncent clairement que des gens qui se cachent et qui attendent en se disant que peut-être tout reviendra à la normale et puis on verra plus tard. Donc
par exemple,
je trouve qu'il fallait le soutenir. Après, oui, il est dans une dynamique où il a envie de renouveler. On verra ce qui va se faire, mais pour le moment, il faut qu'on lui, voilà, qu'on l'aide à gagner et ensuite on l'aidera aussi à pas échouer parce que quoi qu'il se passe, il y a une nouvelle ère politique qui est en train de s'ouvrir et qu'en effet, il va falloir construire la politique et le pays différemment.
Vous êtes au Parti Socialiste quand vous voyez, quand Benoît Hamon aujourd'hui dit voter Macron un acte difficile, un choix évident,
non,
attendre
le dernier
jour.
Non, pour moi, c'est pas un acte difficile, c'est ce que je disais et ouais. Je pense que on a besoin de soutien franc et pas de.
Non, il l'a fait dès le soir du premier tour, Benoît Hamon.
Oui, c'est il l'avait fait, mais on parle de la tribune.
Depuis, c'est vrai, oui.
Moi, j'ai pas de difficulté à voter Emmanuel Macron. Hein. Je veux dire, j'ai plus de similitudes avec Emmanuel Macron qu'avec bien évidemment Marine Le Pen et encore plus quand il a fallu voter Chirac. Et j'ai eu aucun problème à le faire. On était 80% à le faire.
Alexandre Loubet.
Moi, je souhaiterais seulement préciser à quelle sauce les Français seront mangés. Emmanuel Macron, c'est 10 milliards d'économies sur la sécurité sociale. Alors, on peut donner des leçons en matière de santé. Pardonnez-moi, mais quand on voit aujourd'hui l'État en matière de déremboursement des médicaments et le manque de médecins, je crains le pire pour le quinquennat à suivre. C'est Emmanuel Macron passé. C'est également près de 20 milliards. Pardonnez-moi, c'est également près de 20 milliards d'économies sur les collectivités locales.
Alors, une question juste politique. On a beaucoup dit Nicolas Dupont-Aignan s'est suicidé. En soutenant Marine Le Pen?
Absolument pas. Nicolas Dupont-Aignan a eu le courage de sortir du confort pour défendre ses convictions. D'accord. Et pas, encore une fois, pas pour sauver sa peau.
Si éventuellement Marine Le Pen perd dimanche.
Vous savez, moi, je connais un homme en Nicolas Dupont-Aignan qui a toujours préféré défendre ses convictions plutôt que ses intérêts.
Aucun rapport avec la dette du parti contractée après l'échec des 5%.
C'est... Absolument pas. Je vous engage vraiment à vérifier les comptes sont rendus publics à travers la commission de contrôle des comptes de campagne. Nous n'avons aucun, et je le dis, je vous l'assure, nous n'avons aucun accord financier avec le Front National ni Marine Le Pen.
Mais
aucun
accord financier.
Nous avons d'ailleurs lancé une souscription nous permet à aujourd'hui quasiment de boucler nos comptes de campagne. Donc je vous le dis encore une fois, aucun accord financier. Et si je peux juste me permettre d'embrayer là-dessus, il faut savoir qu'Emmanuel Macron souhaite un ministre des Finances européen. Ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, en gros, délaisser, la capacité de gérer le budget au ministre des Finances.
Non, c'est pas ça.
Au ministre des Finances.
De la zone euro. Non,
mais
c'est
oui.
Pas ça.
Non, pardonnez-moi. Oui, mais pardonnez-moi.
Relisez.
Et qui dominera ce Parlement? Qui dominera exactement cette organisation-là? L'Allemagne, on le sait très
pourquoi
bien. Et voyez
pourquoi
donc, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'Allemagne est le principal poids économique de l'Union européenne. Vous n'êtes
mais
pas sans le savoir.
Mais vous savez qui va siéger?
Qu'est-ce qui va nous attendre? Est-ce que c'est la même situation que la Grèce a aujourd'hui où on ne peut même pas aller se faire soigner du cancer?
Vous savez très bien que ça n'a aucun rapport avec son.
C'est une austérité qui va être.
N'exagérez pas.
Avoir un ministre des Finances de la zone euro, c'est la garantie de voir ceux qui dominent l'Union européenne permettre d'imposer toutes les mesures d'austérité qui
sont.
Et ça m'étonne venant d'une socialiste
on a très peu de temps parce que le débat va commencer dans 30 secondes. Donc voilà, je vais devoir juste, c'est normal, vous savez comment c'est, nous les médias, France Info notamment, on est très précis. Donc je vais devoir vous remercier, Yann, merci beaucoup d'être passé ce soir. Merci Alexandre Bay, merci Aymeric Doigé.